Bonjour à vous, auditrices et auditeurs de Jazz Exploration, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du jazz et des musiques improvisées. Aujourd'hui, je reçois Louis Billette, saxophoniste et empereur du jazz autoproclamé, dans son dernier album, Luxe. L'interview, c'est après le générique.
Jazz Exploration.
Bonjour les billettes.
Bonjour Thomas, ça va?
Bien et toi?
Au top.
Merci d'avoir accepté de participer à Jazz Exploration.
Ah, merci de m'inviter.
Voilà, c'est un plaisir de t'avoir. En quelques mots, Louis, tu m'interromps si je dis des bêtises, mais on peut te décrire comme compositeur, saxophoniste, musicien au sens large, et aujourd'hui à la tête d'un sextet dans ton dernier projet. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours et sur ton parcours musical et sur ta carrière musicale, et notamment, après on rentrera dans le détail de ton dernier projet.
Moi j'ai commencé le saxophone petit, parcours classique, assez ennuyant, un prof méchant, pas passionné, activité comme ça, et puis bon, j'étais pas mauvais élève, mais bon, voilà quoi, ça aurait pu s'arrêter là. Et puis mon père m'a quand même allé à la Fnac, a dit mon fils fait du saxophone. Alors il y avait un bon vendeur à la Fnac qui lui a conseillé des bons disques. Alors même si ma famille était pas du tout de musiciens, j'ai pu quand même écouter du Coltrane, du Duke Ellington et des gens comme ça qui m'ont bien inspiré. Et donc j'ai aimé le jazz jeune, mais j'y comprenais rien, et puis je connaissais pas du tout de musiciens. J'avais pas du tout l'idée de faire de la musique. C'est vrai que quand il y a personne dans son milieu qui fait de la musique, c'est pas forcément une vocation à laquelle on pense. Enfin, moi en tout cas, je pensais pas que c'était une possibilité de métier, quoi. Tout a commencé surtout sérieusement quand mon frère est devenu schizo. Et là, il s'est déconnecté du monde palpable, et puis il est allé dans le poétique. Et moi, je l'ai suivi. Et puis voilà, je me suis du coup intéressé à plein de choses, à la philosophie et à la musique surtout. Et puis, et on a fait de la musique ensemble, et on a enregistré du rap. Mais moi, j'étais plutôt beatmaker. Mais voilà, j'avais 16-18 ans. De mes 16 à mes 20 ans, disons, c'était mon truc avec mon frère. Donc, c'était mes premières créations musicales. C'était comme ça, quoi. Et puis, lui qui écrivait des textes un peu complètement dingues. Et on continue d'ailleurs encore à faire de la musique maintenant. Donc, ça a été un peu mon fil rouge, ça. Mon frère schizo. C'est lui qui me connecte au monde. Artistique, quoi, au monde poétique. Et puis bon, après j'ai pas percé en tant que beatmaker. J'aime pas trop passer de temps devant les écrans, en fait, finalement. Donc j'ai persévéré plutôt dans le saxophone. Et puis le jazz, ça m'a paru un moyen d'expression parfait. J'ai bien aimé la liberté et à la fois l'ancrage du jazz. Et je m'y suis lancé à corps perdu. J'ai appris avec surtout Sylvain Boeuf et André Villéger à Paris. Et là, je me suis un peu renseigné. On m'a dit, le maître Yoda, c'est André Villéger. Alors, je suis allé voir André Villéger. Ça a été mon prof. Il m'a dit de tout chanter. Interdit de jouer quoi que ce soit si on ne peut pas le chanter.
Ah oui.
Donc c'est resté ma méthode jusqu'aujourd'hui.
C'est un bon conseil, ça.
Ouais.
Ouais.
Et que je transmets encore aujourd'hui à mes élèves. Aujourd'hui, je suis prof à Genève, à l'école de musique actuelle. Et c'est un conseil que je transmets encore. Ouais.
Et ensuite, donc, la haute école à Lausanne. Et c'est là que t'es parti en Suisse, du coup. C'est pour la haute école ou t'avais déjà fait le mouvement?
Non, je suis parti en Suisse pour faire cette haute école un peu par hasard. J'ai suivi un ami qui passait un concours et puis c'était joli, le lac. Du coup, j'ai été pris et je suis resté, mais je savais pas trop à quoi m'attendre. C'était un peu le hasard de la vie.
C'est un joyeux hasard puisque, enfin, notamment dans ta génération, je pense qu'on est à peu près de la même d'ailleurs. Il y a quand même énormément de musiciens extrêmement talentueux qui sont sortis de cette haute école.
Ouais, c'est vrai que dans la, je suis bien tombé quoi. Les cours, c'était ce que c'était, mais c'est vrai que mes profs, c'était surtout les autres élèves, quoi. Et on faisait des sessions, on s'apprenait les standards les uns les autres, on bossait ensemble, et puis on voyait des mecs qui se bougeaient le cul, comme Gauthier Tout. Quand on était au conservatoire, hein, il faisait 8 heures de piano par jour, et puis 8 heures de démarchage par jour, à essayer de faire marcher ses projets. Et puis ça marche, quoi. Donc quand on voit des mecs comme ça qui se bougent et que ça marche, ben ça donne envie.
C'est clair.
Ça donne envie de marcher. Autant à Paris, il y avait aussi plein de mecs qui y a, bien sûr, il y a plein de mecs qui déchirent l'instrument, mais peut-être que en Suisse, la particularité, c'est que c'était plus des mecs qui se, en tout cas proportionnellement, de gens qui se bougeaient à faire leur propre projet de composition tout de suite, des albums personnels. Peut-être moins de gens qui défoncent les standards, mais plus de gens qui font leur projet personnel.
Ouais, je vois. Alors, c'est drôle parce que tu dis par hasard, tu donnes beaucoup de crédit au hasard et aux rencontres de la vie. Par ailleurs, je sais pas si tu es au courant, mais tu as aussi inspiré des gens, puisque il y a pas longtemps, j'ai sorti un épisode avec Sarah Lankman qui dit que si elle s'est mise au jazz, c'est parce qu'elle connaissait Louis Billette.
Ah oui, alors ça c'est un peu mythique parce que ça date vraiment de il y a très longtemps. Mais parce qu'on était ensemble en primaire. Donc on s'est retrouvés à Lausanne.
Ouais, c'est ça. Donc
par hasard, parce que je savais pas qu'elle était là à Lausanne et on s'est retrouvés après une décennie de séparation.
Ouais, c'est drôle. Effectivement, ce parcours qui t'a amené vers le jazz et puis vers la professionnalisation. Depuis, tu as sorti 4 albums studio maintenant. Alors, les 3 premiers en quintet, si je dis pas de bêtises, et puis là un dernier épisode qui est sorti donc fin 2023. J'ai noté la date exacte, c'est le 27 octobre 2023. Il y a un changement de formation et un changement stylistique aussi quand même, on peut dire, qui est assez marqué par rapport à ce que tu avais pu faire avant. Est-ce que tu peux nous parler de la mise en place de ce nouveau projet, de quelles sont les inspirations, de comment tu as constitué ton équipe sur ce projet, et puis surtout comment cette esthétique est venue à toi en termes de composition?
Oui, c'est vrai que c'est assez différent. Ça se voit sur la pochette. Les autres, je suis un peu caché. C'est un peu ECM. Et puis là, c'est bam, on est en... Et puis c'est un peu humoristique. On est en costume d'empereur et on se marre. C'est parti de qu'est-ce que c'est parti de j'ai envie de changer. En fait, ces nouvelles compositions, je les ai écrites dans une période sombre, Covid. On s'ennuyait vraiment. Personnellement aussi, c'était pas facile. Alors, par réaction, j'ai écrit de la musique plutôt qui fait du bien tout de suite. Plutôt de la musique facile à écouter, un peu dansante. Ça correspond à ce que j'avais aussi envie d'écouter. Parce que quand je vais bien, j'aime bien écouter de la musique triste et de la musique qui va me faire pleurer. Et puis quand je vais moins bien, je préfère écouter de la musique plus légère. Alors là, j'ai voulu écrire de la musique plus légère. Maintenant, tout va bien. Hein. Et puis, mais c'est un plaisir de la jouer, de voir les réactions. Moi, autant, c'est vrai qu'après les concerts, tout le monde dit toujours que c'est bien, mais là, je sens que ça c'est de la musique qui donne la banane un peu. J'ai un peu le même. Comme quand je joue pas mal dans des groupes de swing où on joue de la musique old school. Et il y a un côté de voir tout le monde avec la banane, ça fait. En jouant du jazz, ça fait plaisir, quoi. Alors, mais. Peut-être que la musique que je faisais avant les trois albums, c'était peut-être un petit peu plus profond. Mais. Ouais, là, il y a plus de banane.
Ouais, ouais. Bah, justement, enfin, le nom de l'album, donc Luxe, Lumière en latin, qui finalement va aussi avec ce que tu es en train de dire, hein, donc plus la banane, plus enjoué, plus voilà, hein, l'humain est sensible à la lumière en général, plutôt positivement, donc avec ça on peut faire un parallèle entre la musique et puis le titre, mais bon, c'est pas que ça, hein, puisque ça vient de la devise de ta ville d'adoption, donc Genève, aussi c'était un moyen de rendre hommage. Mais alors pour le coup, le côté empereur, là c'est moins un hommage à la Suisse, encore que c'est peut-être l'aspect empereur du jazz en Suisse. Comment t'as voulu faire, enfin pourquoi cette image de l'empereur d'une part, comment ça t'est venu, comment ça vous est venu, parce qu'effectivement il y a toute une série de photos et on voit que vous vous marrez bien, enfin vous êtes pas mort de rire sur la photo, mais on sent qu'il y a une certaine connivence dans la manière dont vous regardez.
Ils étaient pas forcément, quand je leur ai présenté l'idée, ils m'ont dit mais ça va être pourri ta pochette. c'est vrai que s'il fallait que ce soit bien fait pour que ça le fasse. Mais finalement, tout le monde est très content.
Elle est très belle cette pochette.
Ah, elle est super belle. Je suis content. Mais c'est vrai que sur le papier, ça faisait un peu peur. Mais oui, on s'est quand même marré. Mais ouais, en fait, ouais, Lux parce que Genève. Parce que aussi vu que c'était pendant le moment Covid qu'on répétait 2021, du coup c'est aussi pour ça que c'est centré sur Genève, parce que c'est j'ai voulu faire un projet local, et aussi par la force des choses, parce que je pouvais répéter qu'avec des musiciens dans le coin, du coup je me suis forcément recentré sur Genève, et donc voilà, très local. Pourquoi l'empereur? Parce que je suis le boss de Genève, quoi, c'est pour ça, quoi. Ouais, non, c'est vrai que les albums d'avant, je suis de dos, je suis de nature plutôt timide, je m'efface, alors là, j'ai fait un peu un excès inverse, quoi, je me suis un peu rattrapé d'un seul coup, quoi.
Tu t'es fait violence.
Voilà, je me suis fait violence, puis c'était en discussion avec Hugo qui fait tous mes clips. Là, il y a un clip qui arrive dans une semaine sur ma chaîne YouTube, et. Ouais, voilà, on a voulu exagérer le truc à fond, alors on est parti sur Napoléon, on s'est basé sur un tableau où il s'auto-sacre empereur, et on a copié vraiment ce tableau, on a fait les costumes sur mesure, on est parti à fond dans le délire. Voilà, après, c'est pas une musique, c'est pas du jazz moyenâgeux.
Non, pas du tout. Mais ça, on va y venir dans le détail. Mais donc, tu disais, il a fallu que je les motive. Les gars, bah, justement, tu peux peut-être nous parler des... Tu t'as dit que tu t'es recentré sur des musiciens plus locaux. Est-ce que tu peux nous dire qui t'entoure sur cet enregistrement? Voilà.
Oui, alors, à côté de moi, les soufflants, c'est Shems Bendali à la trompette. Je suis fan de Shems, je l'ai rencontré... pour la première fois à Thonon, il était, je sais pas quel âge il avait, mais il était tout jeune, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et puis finalement, il est arrivé au conservatoire à Lausanne, il a son quintet, Shems Bendali quintet, il est créatif, il est beau, je suis fan. Et du coup, je suis très content de l'avoir avec moi. Je dis, ouais, il a un son un peu léger à la trompette, ça, j'adore. Et à côté, qui était mon trompettiste dans le quintet, c'est devenu le tromboniste, Zachary Xik. C'est très compliqué d'avoir les deux en même temps dans son groupe, puisque niveau disponibilité, vu que ouais, plus les mecs sont bons, plus c'est difficile de les avoir en même temps. Donc c'était stratégiquement, musicalement, un très bon choix. Stratégiquement, c'était plus compliqué. Mais bon, je suis quand même très content parce que là, j'ai une pépite maintenant. Je tourne plus avec Zachary Xic au trombone. Parce qu'il tourne trop là, en ce moment avec Léon Fall. C'est une catastrophe, il est jamais libre.
Ouais, bah oui, c'est sûr.
Pour lui, qu'il a fait 150 concerts cette année, même plus. Alors, je l'ai remplacé par Jules Boitin au trombone en ce moment, qui est de Paris et qui envoie bien au trombone. Et puis, à la rythmique, on a le fameux Mathieu Laudra, que tout le monde connaît à Genève. Et bientôt international, qui d'habitude est plutôt spécialiste des claviers, du Rhodes notamment, et qui est plutôt dans le groove, plutôt connu pour le groove. Et puis là, je l'ai un peu mis dans une nouvelle situation, mais voilà, il adore ça. Je l'ai remis au piano et il apporte la touche un peu funky au groupe, quoi.
Ah ouais. Fait.
Et il cuisine très bien aussi.
Ça et, compte en tournée.
Fait des super blagues. Ouais.
Et ok. Et donc ensuite, donc ça c'était piano. Contrebasse.
Voilà. Contrebasse Yves Marcotte. Alors lui c'est celui que je connais depuis le plus longtemps. Parce qu'on était. Notre tout premier groupe quand on était adolescent était ensemble dans le Nord. Parce que j'ai vécu une partie de ma vie dans le Nord quand j'étais adolescent. Natural Misfits, c'était un groupe de reggae, jazz, rap, etc.
Ok, c'était bien. Ah ouais.
Et ouais, il joue aussi dans le groupe de James. Il a monté un groupe d'un super groupe de ska jazz avec des super arrangements. C'est un super arrangeur aussi, donc c'est à la fois le contrebassiste et un peu le... Il relie mes partitions aussi, c'est un arrangeur professionnel, très, très pertinent, alors voilà. Et à la batterie, Martin, lui c'est mon plus fidèle musicien, puisqu'on a fait 7 albums ensemble, parce qu'on a, en plus des 3 albums que j'ai sortis avec Louis Billet de Quintet, en parallèle j'avais fait 3 albums avec un groupe plus électrique, Oggy and the Phonics, et il était aussi dedans, donc on joue tout le temps ensemble avec Martin, et c'est un super arrangeur. Je lui écris quasiment pas de partition, il trouve toujours le, enfin quand j'écris la musique je sais, j'imagine un peu ce qu'il va trouver pour aller autour, et j'adore comment il joue, très fin.
Super équipe, comme tu disais. Ce qu'on note pas mal, c'est que oui, c'est un album à ton nom, c'est tes compositions, mais finalement, il y a quand même ce travail, un peu cette énergie. C'est pas des musiciens de session, quoi, avec IT. Il y a ce sujet du partage des arrangements, de travail un peu collaboratif qui est intéressant, que tu mets en avant.
Oui, oui, oui. Bon, après, on n'a pas eu trop le... C'est pas un, non plus un... C'est collaboratif, oui et non, parce qu'on s'est vu... avant d'enregistrer l'album, on a dû se voir 3 fois, C'est quand même très, très préparé. Et c'est pas comme un groupe de rock où on peut tout arranger ensemble. C'est quand même. Mais je pense vachement aux musiciens quand j'écris la musique. Et j'écris en sachant ce qu'ils vont en faire. Et c'est vrai que j'aurais pas du tout écrit la même chose si c'était un autre pianiste ou un autre batteur, etc. Quoi.
Mmh, d'accord. Ouais.
J'écris pour des personnes.
Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est intéressant. Et justement, donc tu disais donc j'ai écrit pour des personnes. L'idée du sextet, comment ça t'est venu? Parce que certes, le sextet c'est une formation un peu historique, traditionnelle. Maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que les formations au-delà de 5, ça se voit peut-être un peu moins. C'est peut-être un peu moins simple à faire tourner aussi. Pourquoi là tu t'es dit, ok, le quintet c'est bon, je vais passer à autre chose, et le autre chose c'est pas un trio ou un quartet, c'est un sextet?
Oui, c'est vrai que moi je pense pas du tout comme ça. Souvent on me dit, mais il faut que tu penses ton projet, faut d'abord que tu penses où est-ce que tu veux l'amener, la tournée, puis ensuite tu prévois la musique, puis ensuite. Mais moi je fais tout à l'envers, je fais déjà de la musique et puis ensuite on voit comment ça se passe. J'écris de la musique à la base pour quatuor de saxophone. Et en la jouant, je me suis dit, ah, la musique est vachement bien, mais quand même le quatuor de saxophone, ouais, c'est sympa, mais bon, ce serait quand même mieux avec un basse-bat et une vraie section, parce qu'il y avait une ligne de basse avec le baryton et puis trois voix avec les trois autres saxophones.
Ouais, ouais, ouais.
Mmh. Et en fait, j'entendais le quatuor de saxophone qui le jouait, c'était pas mal, mais. Et je me suis dit, ah non, mais ça serait carrément mieux avec un vrai groupe, quoi. Parce que je me dis, les compositions méritaient mieux qu'un quatuor de sax, quoi. Et donc, mais c'est parti de là, techniquement.
Ok. Ouais, je vois. Ok. Ah, c'est intéressant. Et donc, ce quatuor, il est devenu quoi, finalement?
J'ai arrêté. J'ai quitté.
D'accord. Ok. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'attend en termes de scène, en termes de tournée, en termes de spectacle?
Oui. Alors, j'ai été très aidé au début du lancement du projet par Jazz Contrebande, qui est une association transfrontalière ici à Genève. Parce que Genève, c'était tout au bout de la Suisse, alors c'est entouré de France. Alors, j'ai fait pas mal de concerts là jusqu'à maintenant. La plupart grâce à Jazz Contrebande, qui est le réseau de programmateurs du coin entre la France et la Suisse. Donc j'ai pu jouer déjà dans toutes les villes autour de Genève. Donc je sais plus, on a dû faire une dizaine de concerts. Mais voilà, dans un petit périmètre. Là, on va à Paris le 27 juin.
Au Son de la Terre, qui est un endroit, j'y suis jamais allé, mais j'ai vu des photos, ça a l'air incroyable.
Ouais, alors moi non plus, j'y suis jamais allé, figure-toi. Ouais, je me réjouis vachement.
Mmh. En tout cas, ce lieu a l'air très beau. Donc effectivement, ce sera la release partie française de l'album Luxe qui se fera à ce moment-là. Donc voilà. Donc en tout cas, je remettrai les liens dans la description de l'épisode. Ça permettra aux gens de pouvoir venir voir, prendre leur place et donc profiter de ce lieu et de ce concert. Alors, en plus, c'est une, alors pour info, le son de la Terre, c'est une péniche. C'est quand même un endroit qui est assez atypique, vachement beau. Et puis le 27 juin, normalement, il fera beau. Donc, quoi de mieux que de profiter d'un magnifique concert sur une péniche à Paris quand il fait beau, quoi.
Et sinon, j'ai encore des concerts en septembre, mais plus du côté suisse. Il y a un festival dans les montagnes qui est super, à Saint-Luc. Jazz sous les étoiles, le 6 septembre. Et puis le 20 septembre, je joue juste à côté de chez moi, au One More Time à Genève, le jazz du coin. Et puis après, il y a d'autres concerts, mais en négociation de dates, donc j'ai pas encore les dates.
Eh oui, les dates seront disponibles sur ton site internet, j'imagine, quand tu auras les confirmations. Donc de toute façon, voilà, vu que j'aurai remis le lien du site, les gens pourront venir voir si tu passes près de chez eux, puisque tu disais, cette musique, c'est une musique qui s'apprécie quand même live. Donc même s'il y a l'album qui est très bien et que ça permet de découvrir, l'essence est quand même de pouvoir venir te voir, vous voir sur scène.
C'est clair. De toute façon, le jazz, moi, j'en écoute pas hein, chez moi. C'est sur scène. Hein. Enfin, si, j'écoute les anciens, quoi, mais le jazz, ouais, en album, c'est bien, mais ouais, non. Sur scène.
Bah oui. C'est un peu, on peut faire un parallèle avec le sport, quoi. Regarder un match à la télé, c'est pas tout à fait pareil que d'être dans les tribunes, quoi.
Oui, c'est vrai que à la télé, on regarde les gens se passionner comme ça pour le match, mais ils sont fous. Comment ils peuvent s'intéresser comme ça? C'est des malades. C'est vrai qu'une fois qu'on est dans le stade, on comprend un peu mieux. Pareil pour le jazz. Il faut se rendre sur place pour comprendre.
Il faut se rendre sur place pour comprendre. Donc voilà, allez voir Louis près de chez vous, où vous soyez, mais notamment il y a cette fameuse date à Paris dont on parlait tout à l'heure. En termes de clip, donc il y a un clip qui est en préparation, tu le disais, qui va sortir. Donc là, j'imagine que tu, sans rentrer dans tous les détails, mais j'imagine que tu as encore exploité cet aspect impérial qu'on voit sur la pochette.
Oui, il y avait donc faut que je fasse de la pub pour Hugo Violi et sa boîte Peli Peli, parce qu'il a fait la pochette, mais il a fait aussi mes anciennes pochettes, mes anciens clips. Vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube Louis Billet, c'est sur Louis Billet que vous trouvez ça, Louis Billet à YouTube. Mais il a fait aussi le site internet, bref, appelez-le, il est super. Mais le clip, en fait, oui, il fallait répondre à la question, mais comment ça se fait que vous êtes en costume d'empereur sur la pochette, mais sur scène, vous êtes habillé civil. Bon, les gens sont quand même déçus. Mais du coup, il fallait raconter une histoire pour expliquer ça. Alors, et du coup, c'est que ça s'explique parce que en fait on est habillé comme ça dans la vie quotidienne, quoi. Donc je me lève en empereur, je mets mon vinyle, je caresse mes chats, je suis chez moi en empereur, je me balade, je vais acheter des M&M's, je vais au kebab, et voilà, je me suis promené dans la ville comme ça, les gens me regardaient bizarre, et mais je me rends sur le lieu du concert, et puis ensuite on se retrouve avec le groupe, et puis on c'est un clip, moitié concert.
D'accord. Donc en fait c'est le contre-pied, c'est-à-dire que la tenue d'empereur, c'est pas ta tenue de scène, c'est ta tenue quotidienne, et ton habit civil, comme tu dis, c'est ta tenue de scène.
Voilà, après on se change en arrivant. Je vous ai spoilé le clip.
Mais quand l'épisode sortira, le clip sera disponible de toute façon, donc donc c'est bon. En tout cas, ça nous donne l'explication. Allez, c'est intéressant, c'est cool comme idée. Je trouve que voilà, il me tarde de le voir. Je l'ai pas encore vu. Il me tarde de le voir. Du coup, c'est un bon teasing.
Ouais, il est bien. C'est appliqué.
C'est bien. Ouais. C'est pas si courant que ça de faire des clips dans les musiques instrumentales. Enfin, il y en a quand même de plus en plus, mais il y en a plein qui en font pas du tout. Et toi, c'est vrai que sur tout l'ensemble de tes projets, t'as toujours au moins un clip qui sort, qui permet un peu de mettre un visuel sur le son. C'est quelque chose qui est important pour toi, la mise à l'image?
C'est pas du tout une stratégie commerciale, hein. C'est comme j'ai dit tout à l'heure sur la je fais d'abord parce que je trouve que c'est cool, parce que c'est comme le fait de faire un sextet ou le fait de sortir des albums. Non, c'est pour j'aime bien faire un prolongement de la pochette par une vidéo, mais c'est aussi l'association avec Hugo Violi. Vu qu'il fait les pochettes et vu qu'il est aussi vidéaste, c'est un travail en commun, quoi. Donc on fait ça pour la passion de réaliser des petites. C'est vraiment pas vu comme un comme une comme pour, comme une vitrine, une promotion du groupe. C'est vraiment un objet artistique. On voit ça comme un Ah oui, un objet artistique, quoi. Mais c'est voilà, c'est ce que c'est.
Ouais, bah c'est cool. Enfin, moi je trouve que c'est bien. Après, je comprends les gens qui n'en font pas et qui disent mais c'est parce que ça coûte cher et que ça rapporte pas forcément ce que ça peut potentiellement coûter. À la fois, j'entends l'argument, mais ton argument, je l'entends aussi, de dire voilà, moi je suis artiste, ce que je fais c'est produire des objets artistiques, donc je produis des albums, je produis des concerts et le clip fait partie de mon projet artistique global. Voilà. Et c'est pour ça que je le fais.
Il faut le faire si on a une idée, quoi. Faut pas se forcer.
Non, bien sûr. Bah là, effectivement, après avoir fait une pochette pareille, je pense qu'il y avait quand même quelque chose à faire.
T'es obligé de faire un clip.
C'est sûr.
Rien que pour réutiliser les costumes.
Rien que pour réutiliser les costumes, parce qu'effectivement, tu disais, ils ont été faits sur mesure. Enfin, vous êtes vraiment allé jusqu'au bout du truc. Ouais. C'est drôle. Mais ce serait pas mal d'ailleurs que pour votre concert à Paris, on vous voit arriver en empereur sur la péniche et après en civil sur scène.
Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ouais, j'y penserais, ça pourrait le faire. Ce serait réalisable.
Ça fait
je vais pas forcément pas le faire, mais parce que.
Il faut que les gens sentent à l'aise. Ouais.
Faudrait que je les paye plus. Mais moi, je pourrais le faire.
C'est drôle. Ouais. Et en tout cas, c'est quelque chose qui marque les esprits. C'est-à-dire que au-delà de l'album qui est très bien et de la musique qui est très bien, rajouter ce genre de détails qui n'en sont pas, là, en l'occurrence, parce que c'est quand même quelque chose de bien marqué, ça marque les esprits. Ça, c'est indéniable. Et moi, je trouve que. Personnellement, je trouve que c'est assez bien de faire ça. Bah, d'ailleurs, quand on prend plusieurs projets un peu modernes, pas que d'ailleurs, je pense que Sunra, autant sa musique est très bien, autant les tenues qu'il portait quand il faisait ses concerts ont au moins également à sa musique joué dans sa notoriété ou en tout cas dans l'image qu'il a laissée dans l'inconscient collectif.
Ouais, exact. Je pense aussi à... Comment il s'appelle ? Africa Bambaataa. Ouais, il y a des mecs qui poussent le dans une sorte d'art total, quoi. Moi j'en suis pas encore à là parce que je pousse pas le truc sur scène, quoi. Parce que sur scène, pour moi, il y a quand même que le son qui compte. Moi les concerts, je les écoute les yeux fermés. Ouais, j'ai pas envie de pousser le truc à faire un show. Ouais, ça m'intéresse
total.
Pas trop.
C'est vrai. Ouais. Je constate qu'il y a des artistes qui... c'était le cas dans la pop. Enfin, dans la pop, souvent, les musiciens ou chanteurs, etc., on peut se poser la question de savoir si finalement, ils incarnent pas un personnage sur scène. Si on prend des gens comme qui font plein d'écoutes, par exemple, Harry Styles, on voit qu'il a des tenues assez particulières sur scène. Je crois pas qu'il soit comme ça dans la rue de tous les jours, donc il incarne un peu quelque chose. Dans le jazz aussi, ça se voit, donc on parlait de Mononéon, mais par exemple, Thundercat, il a aussi un look, quoi, ça marque aussi. Et dans ce sens, le côté empereur. C'est pour ça que je me posais la question de savoir si si ça se dirige, enfin si quel, si c'est quelque chose qui te, toi, te marquait, enfin quelle est ta vision là-dessus, quoi.
Oui, oui. Bah, moi j'ai un personnage sur scène, j'aime bien les publics et assez me fait des retours positifs là-dessus, mais c'est pas du tout un personnage d'empereur, quoi. C'est un autre type de personnage, un peu je fais des qui a un humour particulier. Après ça, faut pas que je spoil, quoi, mais bon, il y a quand même une dimension extra musicale sur scène, quoi. Mais ça, je veux pas que ça, là, faut pas que ça passe par le déco. Si on mettait ces costumes sur scène, là, ce serait, ça prendrait trop, beaucoup trop de place,
ouais,
par rapport à la musique.
Ouais, je comprends. Je sais pas si, parce que là l'album il a été donc enregistré en 2021, il est sorti donc fin 2023. Là il va y avoir des tournées. Pardon ?
J'étais un peu lent sur ce coup, mais voilà.
Ah, je le dis pas pour ça, mais ça m'étonne pas. Enfin, ça prend du temps de toute façon, hein, de bien à post-enregistrement, de bien mixer, bien masteriser un album et de faire toutes les sorties, quoi.
Exact. Mais ouais, d'habitude, je sors un truc tous les 2 ans, donc normalement, il devrait y avoir un nouveau projet qui sort en 2025, en théorie. Mmh,
mmh. Et donc,
pas encore exactement lequel, j'ai plusieurs post-it, j'ai plusieurs projets, j'ai le projet de faire un projet un peu de musique moderne à Paris, d'écrire de la musique plus perchée, et aussi j'ai un projet d'écrire... Oui, ça c'est pour la partie écriture, un truc plus perché. Et puis à côté de ça, j'aimerais bien faire un projet tout doux, éventuellement avec un quatuor à cordes, plus autour des standards. Enfin, exploiter un peu, parce que moi, ma spécialité c'est les ballades, de jouer le son soft du ténor, les mélodies voilà, très très simples et belles, donc je pourrais mettre en avant ce côté là voilà, on verra.
D'accord.
Peut-être les deux en parallèle, hein, un truc hyper perché, un truc hyper hyper doux.
D'accord.
Mais aussi un autre album de Lux, sans doute, parce que j'ai le temps que que l'album sorte. Parce que l'album, c'est un vinyle, donc il fait 40 minutes. Et alors, pour pouvoir faire des concerts, j'ai écrit autant de morceaux. Enfin, j'ai déjà écrit l'album suivant, quoi. Donc, on pourrait très bien enregistrer demain le deuxième album de Lux.
Mmh. Ouais, donc Lux, c'est plus qu'un titre d'album, finalement. T'en parles comme un groupe, quoi.
Ouais, ouais, exact.
Donc, l'histoire n'est peut-être pas terminée.
Oh non.
Ah. Ouais, donc là c'est vraiment une nouvelle corde à ton arc, pas uniquement sur un album, mais c'est voilà, tu disais j'ai mes musiques perchées, j'ai mes compositions un peu plus ballades, sur quoi on me connaît déjà un petit peu, et là finalement ce volet plus groove, musique entraînante, c'est quelque chose que t'envisages peut-être de poursuivre et de faire durer dans la durée, quoi.
Oui. Oui, j'avoue que c'est J'ai beaucoup de plaisir à jouer ce groupe, à retrouver les musiciens. Il y a une sorte de... Il n'y a pas la même pression à jouer cette musique. Enfin, il y a pas de... Ouais, j'aime bien. J'aurais plaisir à tourner des années comme ça, avec cette formation. Et le public, je vois bien que ça plaît bien au public, parce qu'ils achètent plein de disques. Du coup...
Ouais, du coup, c'est bien, ça fait plaisir.
C'est motivant, quoi, d'avoir des retours positifs comme ça.
Bien sûr. Ouais, c'est clair. Bah, ça m'étonne pas. Enfin, je me mets un peu à ta place de ce que tu décrivais, d'avoir des gens qui sont, voilà, contents, qui te renvoient finalement quelque chose et qui derrière repartent avec leur copie. Tu te dis que c'est que, voilà, il y a eu une bonne réception, quoi. Le message est passé.
Exact.
Et justement, dans tes inspirations, donc tu parlais un petit peu de ton processus créatif, toi aujourd'hui, alors que ce soit pour Lux ou pour autre chose, qu'est-ce qui t'inspire au quotidien? Quelles sont tes sources d'inspiration qui te permettent de produire voilà, toute la musique que tu produis?
Mais j'ai toujours chanté, quand j'étais petit déjà, je chantais au-dessus de la musique que j'écoute. Quand j'ai des, je suis toujours en train de chanter des petites mélodies. Voilà, je peux dire que je suis pas tellement inspiré par mes compères du jazz vivant, disons. Je suis pas très connaisseur de ce qui se fait aujourd'hui, je dois dire. Je m'inspire plutôt de choses très variées, mais plutôt anciennes. J'écoute de la musique baroque, j'écoute de la du reggae, j'écoute du hip-hop, et j'écoute de la chanson française. Et pas tellement de jazz moderne. J'écoute surtout des choses très douces. J'écoute pas tellement de choses qui ressemblent à ce que je fais moi-même. Donc voilà, c'est un mix comme ça qui se fait dans ma tête.
Ouais, c'est souvent le cas. Cette question, je la pose régulièrement. Et finalement, je pensais avoir des réponses extrêmement variées. Et finalement, ce que je me rends compte, c'est que souvent, la réponse, elle est... j'écoute plein de trucs qui m'inspirent et qui correspondent pas du tout à ce que je fais. Et ça, c'est quelque chose qui revient régulièrement, mais c'est hyper intéressant de faire ce constat-là. Ce que je trouve intéressant surtout, c'est, si tu veux bien partager ça avec nous, c'est d'avoir voilà, quelques noms ou quelques références, par exemple, de ce qui t'a inspiré dernièrement. Parce que, en fait, ça démontre quelque chose, c'est que le jazz est un peu vu comme quelque chose d'à part, tu sais. Souvent, on dit c'est niche, c'est spécifique, etc. Et moi, fondamentalement, je crois pas que ce soit le cas. Déjà, tout ce que tu écoutes, tout ce qu'on écoute aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, ça doit quand même quelque chose au jazz. Ne serait-ce que pour la batterie, par exemple. Toutes les musiques modernes, elles ont de la batterie. Le seul instrument qui a été inventé pour cette musique, c'est la batterie. Donc rien que pour ça, déjà, il y a un lien avec le jazz. Et puis, les gens qui peut-être n'auraient pas cette sensibilité au jazz de base, ça leur permettrait peut-être de faire des liens qui permettent de se dire, ben voilà, je peux écouter du hip-hop et m'y retrouver dans le jazz, ne serait-ce que peut-être par les samples, déjà, qui sont faits dans le hip-hop un peu plus old school.
Exactement. C'est vrai que oui, c'est clair que même par mon expérience, c'est le hip-hop, c'est la je pense l'influence numéro un, parce que c'est comme ça que j'ai commencé à composer, d'imaginer une mélodie qui tourne bien sur elle-même et qui revient bien sur soi, et puis une autre par-dessus, c'est bien quoi. Enfin c'est la base. Et c'est jusque là, c'est des boucles plus longues et des mélodies plus longues, mais c'est le même principe. Après, souvent, je reprends des formes. Je vais reprendre une forme d'une chanson que j'aime bien et puis changer tout le reste. Là, dans les derniers morceaux, les derniers morceaux sont mieux que ceux qu'il y a sur l'album. Ceux qu'on joue encore sur scène sont mieux encore, à ce qui paraît. Il y en a un, je me suis inspiré de Vivaldi. Il y a un morceau qui s'appelle La Folia, qui est bien. Alors j'ai repris juste la forme, parce que c'est une forme très bizarre où C'est tout le temps différent, mais tout le temps pareil. Et d'ailleurs, on veut pas faire du jazz. Moi, quand j'écris la musique, je me dis, ah, je voudrais que ça sonne vraiment... À chaque fois, je voudrais que ça sonne comme une chanson, comme une mélodie, mais juste une mélodie pure qui est trop bien, et puis avec un accompagnement, un truc qui parle vraiment à tout le monde, quoi. J'ai pas envie que ce soit un truc jazz qui parle aux gens qui écoutent du jazz, quoi. Et du coup, c'est vrai qu'on va s'inspirer de la pop, bon, que moi j'aime bien, qui est pas celle d'aujourd'hui, un petit peu plus ancienne, mais finalement, ça devient quand même du jazz, parce que c'est le savoir-faire que j'ai, quoi.
Bah écoute, en tout cas, Louis, merci beaucoup pour cet échange. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans les quelques mois qui viennent?
Bah la gloire qui hérite à mon titre.
Bah écoute, ça c'est un magnifique mot de la fin. en tout cas, voilà, allez voir Louis en concert. Merci d'avoir écouté Jazz Exploration. Pour connaître l'actualité du podcast, vous pouvez nous suivre sur Instagram et sur Facebook. Vous voulez aider le podcast à se développer? C'est très simple, il vous suffit de vous abonner, de noter le podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et de laisser des commentaires. À très bientôt, je vous laisse sur le titre Remontée pas mécanique de Louis Billette.